Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La Rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La Rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Alors, après Tintin, après Roald Dahl, après Ian Fleming, c'est maintenant au tour d'Agatha Christie d'être victime de censure ou de réécriture, Mathieu.
Oui, et nous devons tenir un registre. En fait, nous devons nous intéresser chaque fois qu'une histoire comme celle-là perce dans l'espace public. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne percent pas dans l'espace public. Faut pas l'oublier. Hein. Quelquefois, ça circule, puis on nous dit, parle-en pas, c'est pas possible. Eh bien, faut le noter. Qu'est-ce qui se passe, donc, Agatha Christie, qui a écrit dans un autre temps, avec d'autres valeurs que les nôtres, avec d'autres, un autre rapport à ce qu'on, à la diversité du monde que les nôtres, avec un vocabulaire et des préjugés qui n'étaient pas les nôtres. Eh bien, là, on s'est dit, pour que ces romans puissent traverser l'épreuve du temps, pour qu'ils puissent être lus aujourd'hui, il faut les nettoyer, biffer des passages, changer des mots, réécrire des passages s'il le faut. Alors là, il y a deux choses là-dedans. On en a souvent parlé, toi et moi, c'est en tant que tel une logique de censure purement et simplement, mais surtout si on doit réécrire une œuvre en fonction des valeurs des temps présents. Si dans 20 ans, les valeurs actuellement à la mode ont changé, puis de nouvelles choses nous offensent, et puis que la réécriture convient pas pour réécrire encore une fois, est-ce que par couche de réécriture successive, l'œuvre existera encore dans 30, 40, 50, 60, 70 ans? Ou est-ce que l'œuvre deviendra-t-elle tout à fait invisible? Parce que à force d'être réécrite, on n'aura plus de traces de l'original. Eh bien là, ça touche maintenant Agatha Christie. Et dans le monde anglo-saxon, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux, les auteurs, à voir leur œuvre ici mutilée par des commissaires politiques qui vont nous demander demain de changer tel poème, qui vont nous demander demain de changer tel hymne national, qui vont nous demander demain de changer, mais surtout de changer des œuvres qui existent dans le temps avec l'empreinte de l'époque sur elles. Eh bien non, désormais, il faut même réchanger Agatha Christie. J'étais sidéré quand j'ai vu ça, et pourtant, on est habitué. On le sait maintenant qu'on se contente pas de modifier les œuvres de la littérature à venir, mais on modifie celles de la littérature passée. Eh bien, maintenant, c'est le tour d'Agatha Christie.
Écoute, Agatha Christie, c'est un peu comme une BD, là. J'ai relu récemment Le meurtre de Roger Aykroyd, OK, là, et c'est vraiment, tu sais, c'est pas une très bonne écrivaine, premièrement, on va le dire, là. Et à la fin, c'est impossible de trouver qui dessus parce qu'elle cache des indices. C'est impossible de savoir. C'est mal construit. Les personnages sont très gros. Bon, il y a un côté BD. On sait que Agatha Christie, elle aimait beaucoup, c'est une archéologue amateur. Elle aimait se promener. Donc, il y a un côté Tintin où des fois, c'est en Mésopotamie. Des fois, c'est sur le Nil. Des fois, t'es dans d'autres pays, sur l'Orient Express et tout. Et les personnages sont effectivement en carton-pâte. C'est ce qui fait un peu le charme suranné de ces livres. Mais là, de dire, ah, mais c'est épouvantable la façon dont on traite, par exemple, je sais pas, les Arabes, ou dont on traite les Juifs, ou dont on traite les... C'est de la caricature, bordel!
Mais la caricature, c'est le second degré. Le second degré n'est déjà pas accepté aujourd'hui. Hein, il y a toujours un esprit simple, je dirais un esprit simple, en fait, simplet, qui conjugue sa simplicité d'esprit avec du fanatisme et qui veut tout ramener au premier degré et qui est incapable d'avoir la distance nécessaire lorsqu'il se penche sur une œuvre. Premier élément. À ce compte-là, si je peux me permettre, imagine ce que les Québécois pourraient dire à propos de l'œuvre de Claude Meunier. Claude Meunier, avec la petite vie, c'est une caricature drôle, piquante de la culture québécoise. C'est une représentation caricaturale terrible. Et pourtant, on aime ça parce qu'on y voit nos propres défauts amplifiés. Puis on y voit quelques-unes de nos qualités amplifiées aussi. Mais est-ce qu'on a de la sensibilité des uns et des autres? Faudrait désormais en appeler à refaire l'œuvre de Claude Meunier parce que pour refaire La Petite Vie, pour programmer La Petite Vie, notre bien certain l'avait déjà proposé en censurant un épisode avec Normand Brathwaite. Hein. Ne l'oublie jamais. Donc, on est la caricature n'est plus permise, la caricature n'est plus autorisée. T'as tout à fait raison de dire que l'œuvre d'Agatha Christie qui est pas mon œuvre préférée. Hein. J'ai lu ça un peu quand j'étais plus jeune. Ça m'avait pas, j'en voyais l'intérêt, mais ça, c'est pas ce qui me passionnait. Mais là, désormais, eh ben, ça la rend presque intéressante par objet d'intérêt.
Oui, mais tu sais, puis
voilà une œuvre qu'on va revisiter finalement. Mais imagine demain si on devait faire la même chose avec San Antonio. Imagine s'il fallait faire la même chose avec l'ensemble de tout ce qui relève du roman noir, comme on appelle ça. Je précise pour nos auditeurs que roman noir, ça veut dire le roman sombre, hein, le roman des milieux glauques. Là, on parle pas de la couleur de peau des gens. Là. Eh ben, dans tout le roman noir, la littérature qui existait en France dans les années 50-60, si on devait réécrire ces œuvres-là, oh là là, il manquerait d'encre tellement ça prendrait de temps pour tout réécrire.
Mais oui, puis quand je parle de caricature, là, elle caricature aussi son propre peuple, et je m'excuse, les personnages de Britanniques dans les romans d'Agatha Christie, tu sais, c'est juste ils n'ont pas des monocles avec et puis ils ne s'habillent pas comme s'ils faisaient là, de l'équitation à longueur de jour, puis tu sais, ils fument de la pipe, ils ont des vestons en tweed, et ils ont un balai dans le cul, puis tout ça, c'est des caricatures de Britanniques victoriens, là. C'est
non, ça,
gros.
C'est pas grave. Ça, c'est pas grave, parce que c'est quand même des Britanniques victoriens. Donc ça, ils appartiennent à la catégorie des oppresseurs.
Ben
et
oui.
Les oppresseurs dans l'histoire du monde. Je précise, j'ai pas de tendresse exagérée pour la Grande-Bretagne victorienne, hein, franchement. Mais là, on va nous les rendre. On va nous rendre cet univers. On va nous rendre tout ça finalement appréciable, parce qu'on est en train d'idéologiser intégralement la littérature. Donc le style parodique, mais, style de l'amplification. Tout ça n'est plus... Il faut en fait tout relire à la lumière des interdits.
Mais Mathieu, le prochain qui va tomber, c'est un de mes écrivains français préférés, c'est Jules Verne. Écoute, Jules Verne, là, dans Le Tour du Monde en 80 jours, puis bon, dans tous ces voyages fantastiques, là, ce n'est que de la caricature. C'est comme un film de Méliès, là. T'sais.
Non, t'as absolument raison. Puis on peut, en fait, Tintin va y passer intégralement parce qu'il n'y a pas que Tintin au Congo de ce point de vue. Tu sais, quand je perds celui qui se passe en Chine avec l'opium et tout ça.
Oui,
Lotus d'or, okay, qu'importe. Tu vois à quoi je fais référence?
Oui.
C'est l'espèce de Chinois étrange qui dit « Je vais vous couper la tête et ensuite vous comprendrez la vérité. » Bon, c'est sûr que c'est une caricature pas particulièrement sympathique de certains délires chinois. Ben, est-ce qu'il faut aussi interdire celui-là? Et Tintin et les Picarons, est-ce que ça représente de manière caricaturale un peu la culture politique des Sud-Américains qui sont toujours à la veille de faire un coup d'État avec l'armée d'une manière ou de l'autre? Hein? Il faudrait aussi bannir ça. Ça n'arrêtera pas. On pourrait faire un jour une encyclopédie des bannis, puis enfin, on n'aura pas à la faire parce que tout ce qui a existé et qui antérieure à la révolution diversitaire et avec sa morale de l'indignation ne pourra plus exister. Le monde d'hier est à bannir.
Écoute, c'est le Lotus bleu de Tintin. Et moi, j'ai hâte du jour où on va s'attaquer au livre de Tintin, le sceptre de Tokar, parce que ça se passe dans un pays inventé qui n'existe pas, qui est la Sildavie. Ça n'existe pas. Et là, je suis convaincu qu'il y a des woke à un moment donné qui vont dire « Sari des Sildaves ». Ce livre-là, alors que la Sildavie n'existe pas.
Mais ça ne veut pas dire qu'on doit pas rire qu'on doit rire d'eux. Sildavophobe, rire d'une créature imaginaire, c'est pas permis aujourd'hui, cher ami. Mais tu vois, d'ailleurs, on pourrait dire que tu es lapinophobe de ton côté. Hein. Les petits lapins, on sent bien chez toi la version pour le lapin. Mais non, j'y reviens. C'est que c'est une logique de purge, en fait. C'est une logique, on expurge les textes, on vide les textes, on décide de les nettoyer, puis ça fait penser quand même, quoi qu'on en dise, au curé dans ce qu'il y avait de pire, hein, au temps de nos grands-parents, qui contrôlait les œuvres au cours classique, et puis là, il y avait des livres qui étaient dans l'enfer, et puis on pouvait seulement les consulter avec l'autorisation du bibliothécaire prêtre responsable de la chose. Ça fait penser aussi, sur un autre registre, à la Chine de Mao, où on brûlait les œuvres qui, par ailleurs, heurtaient exagérément le régime. Donc, c'est soit l'histoire tourne en boucle, en quelque fait, le progrès est une illusion.
En même temps, tout ça est complètement arbitraire, parce que pendant qu'on s'attaque à Tintin et Agatha Christie, tu peux aller ici, chez Archambault, à côté de Cube Radio, acheter American Psycho de Bret Easton Ellis, où c'est un gars qui baise avec des cadavres, qui décapite des femmes et qui met son sexe dans la bouche de la tête décapitée et se fait faire une fellation par une tête décapitée. C'est des affaires incroyables. Ça, ça passe, puis il y a d'autres livres qui ne passent pas. Tout ça est d'un arbitraire consommé.
Ah, mais c'est le propre aussi du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est le règne de l'arbitraire. C'est-à-dire, le mauvais sort peut tomber sur n'importe qui en toutes circonstances, et il n'y a aucune règle de droit précisément établie qui permette de distinguer le permis de l'interdit. Et on est toujours, c'est ce que disait Miloche, hein, et c'est ce que disait aussi, soit dit en passant, Orwell, lorsqu'il disait que une journée on est en guerre avec l'Océania, l'autre journée on est en guerre avec l'Estasia, mais dans les deux cas, on fait semblant qu'on a toujours été en guerre avec la puissance en question, parce que la ligne idéologique, elle varie. Mais on doit croire qu'elle a toujours été la même. Donc c'est paradoxal. C'est-à-dire, la ligne varie, mais chaque jour on nous dit c'est oui, mais c'est la ligne depuis toujours. C'est assez fascinant. Et là, aujourd'hui, ben, effectivement, c'est au gré des caprices, au gré des indignations, au gré de la colère, au gré des censeurs, et les censeurs sont nombreux.
Je te le dis, là, vraiment, je vais passer pour un prophète. Le prochain qui tombe, c'est Jules Verne. C'est évident que c'est lui. Je suis convaincu.
Mais on peut espérer, mais c'est en France. Et on peut espérer que les Français, globalement, vont conserver une forme de bon sens par rapport à ça. La littérature en France, c'est sacré, hein. Il y a quelque chose, même à gauche, globalement, en France, il y a un attachement à la littérature. Donc, on peut espérer que ce réflexe de survie prédomine, de survie de bon sens, de rapport aux œuvres prédomine en France. Et on peut espérer, de ce point de vue, que le Québec, qui appartient à l'univers francophone, on va être dans la même logique de préservation des œuvres.
Pendant ce temps-là, dans le Coran, on peut dire qu'on peut tuer les non-croyants. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui va demander une réécriture de ce livre-là. Bien sûr. Alors,
Oui, donc, ça, on appelle ça un livre sacré.
Tout à fait. Bon, alors, merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On se reparle demain. Salut.
Bye-bye.